Bonjour et bienvenue dans Mediapart. Aujourd'hui, je reçois Florian Vauros. Il est l'auteur d'un ouvrage, Désiré comme un homme, une enquête sur les fantasmes et les masculinités. Bonjour Florian Vauros.
Bonjour Fabien Scalona.
Vous êtes sociologue à l'Université de Lille et vous publiez donc cet ouvrage aux éditions La Découverte, dans lequel, enfin pour lequel vous êtes entretenu sur plusieurs mois, plusieurs années même, je crois, avec une trentaine d'hommes blancs, de classe moyenne, d'orientation sexuelle variée, qui consomment régulièrement du porno. C'est ça votre terrain, votre enquête. Première question toute simple pour entrer dans le sujet. Qu'est-ce que vous avez recherché à travers ces entretiens? Plus précisément, comment cette consommation du porno, bon, quelque chose de très banal, mais que donc, vous avez ausculté à travers cette trentaine d'enquêtés, comment cet usage, cette consommation du porno, elle vous aide à appréhender la fabrique de la masculinité, comme on dit?
Alors, effectivement, le porno, il y a une femme sur cinq et un homme sur deux qui déclarent, dans les grandes enquêtes sur la sexualité, en visionner souvent ou parfois. Donc, c'est une pratique tout à fait banale, inscrite dans les routines de la vie quotidienne, encore plus à l'ère d'Internet et des smartphones. Et du coup, ma démarche, c'était de partir d'une pratique corporelle, culturelle, banale de la vie quotidienne, et de m'entretenir pour le coup à la fois avec des hommes pour qui c'est une pratique importante, le porno, enfin qui accorde du temps et ou de l'attention, puis d'autres qui en regardent assez rarement et qui lui accordent peu d'attention, pour comprendre comment, dans cette pratique à laquelle le plus souvent on prête assez peu attention, comment se définit la masculinité par toute une série de gestes, d'attitudes, de fantasmes, d'imaginaires. Et du coup, ma démarche, c'était d'avoir des conversations approfondies avec des hommes, certains qui réfléchissaient déjà, soit parce qu'ils participaient à des forums de passionnés, soit parce qu'ils échangeaient avec des partenaires sexuels via Internet ou en face-à-face sur leurs fantasmes et sur leurs goûts pornographiques. D'autres qui n'avaient pas du tout l'habitude d'en parler et avec qui, en fait, j'avais plutôt une discussion plus large sur l'amour et la sexualité à l'écran, pour aussi rencontrer des hommes qui n'auraient pas été intéressés par un entretien sur la pornographie, spécifiquement. Et du coup, de prendre le temps avec ces hommes, de passer une heure, deux heures ensemble, trois heures, enfin parfois de se revoir, parfois aussi de visionner du porno ensemble, quand on le pouvait, enfin qu'on était assez à l'aise pour le faire, pour déplier ensemble cette pratique et comprendre ce qui s'y joue, et notamment ce qui s'y joue dans le rapport à la virilité, à la masculinité, à la domination, à la violence.
Alors, vous parlez de domination, il y a le terme d'ordre patriarcal dans le livre. Vous parlez d'une question de recherche féministe. En quoi elle est féministe et comment vous, en tant qu'auteur, chercheur, homme, vous vous situez par rapport aux études féministes?
Alors, effectivement, la pornographie, à partir des années 70-80, qui est le moment où elle devient à la fois légalisée et où elle devient massivement diffusée et consommée, enfin, encore plus qu'avant en tout cas, elle devient un important objet de débat féministe. Et donc, notamment en langue anglaise, il y a eu beaucoup de productions théoriques en lien avec différentes mobilisations féministes autour de la pornographie, souvent conflictuelles. Moi, débarche, ça a été d'essayer de ne pas raviver les dissensions internes au féminisme. C'était pas ça mon but. J'ai essayé de trouver ce qui me semblait être un dénominateur commun à une bonne partie des approches féministes de la pornographie, qui est que la pornographie, en tant qu'imaginaire, ça compte dans la définition des rapports de genre. Ce ne sont pas que des fantasmes. Alors, là où je m'inscris plutôt dans un féminisme plutôt queer, on pourrait dire, c'est que je ne considère pas les fantasmes, j'essaie de ne pas les considérer littéralement. C'est-à-dire, j'essaie de prendre en considération que le fantasme, c'est un jeu, et que les rapports de domination qui sont en jeu dans les fantasmes, il faut les prendre par rapport à leur but, qui est de générer, de susciter de l'excitation, et que c'est pas parce que on fantasme sur des rapports de domination qu'on est favorable à ces rapports de domination. C'est pas aussi...
Ça dit pas tout de l'identité ou des convictions d'une personne.
Voilà. Et c'est vraiment de s'intéresser aussi au porno. Alors là, c'est plutôt l'héritage des porn studies, qui est un courant de recherche féministe et queer qui s'est développé dans les universités britanniques et états-uniennes à partir des années 80. C'est de prendre le porno aussi au sérieux en tant que genre filmique, que genre médiatique, qui a ses propres règles, et de le prendre au sérieux. Ça ne veut pas dire de défendre tous les pornos, mais c'est-à-dire de défendre l'intérêt du porno en tant que divertissement. Alors, après, en tant qu'homme, ça a toujours été une tension, en fait, et c'est une tension qui n'est pas résolue. J'ai plutôt cherché à l'expliciter plutôt qu'à la résoudre. Mais c'est-à-dire qu'une partie de la tension, elle se situe dans le fait que la relation d'enquête, elle est basée sur la complicité masculine, beaucoup.
Ouais, vous insistez beaucoup sur comment vous gagnez leur confiance pour qu'ils acceptent de parler d'une pratique qui est quand même assez intime. Et tout.
Voilà. Et de l'autre côté, je mobilise du coup des outils féministes. Et donc, ce que j'ai essayé d'éviter le plus possible, c'est la duplicité entre jouer sur la complicité masculine de la relation d'enquête et ensuite en faire une analyse féministe. Souvent, du coup, les entretiens, au début, plutôt pour créer une atmosphère propice, j'ai les questionné sur leur pratique et plutôt de manière empathique. Et plus l'entretien avançait, plus j'ai essayé aussi d'être le plus explicite possible sur quelle était ma démarche critique. Et le fait que je m'intéressais dans une perspective plutôt féministe ou pro-féministe à la question de la masculinité, de la virilité, du genre, de la domination, de la violence.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est dans la posture que là, vous parlez de complicité masculine, vous avez vraiment tenu, et vous l'écrivez, à pas avoir de regard surplombant, genre l'analyste qui va regarder comment se comportent ces enquêtés. Vous avez une formule très forte, vous dites « je suis un spectateur parmi d'autres ». Et d'ailleurs, à un moment, il y en a un qui vous demande, je crois, comment est-ce qu'on regarde du porno à l'université? Vous dites, oui, il y a beaucoup de gens qui en regardent, mais on n'en parle pas comme partout. Quoi. Et donc, vous essayez de vous placer au même plan qu'eux. Et dans le livre, d'ailleurs, vous êtes assez transparent quoi, sur, effectivement, vous aussi, ce que vous regardez, comment les choses vont évoluer dans votre propre vie.
Déjà, c'est-à-dire d'un point de vue pragmatique, si on va voir les gens un peu avec la blouse blanche du scientifique, il y a certains que ça va rassurer quand même, parce qu'il y a certains pour qui vraiment le fait que j'étais sociologue fixait la relation et notamment leur donner confiance sur le fait que j'allais pas essayer de les draguer ou qu'il allait pas avoir des choses un peu bizarres qui allaient se passer, mais que c'était sérieux, etc. Donc, enfin, il y en avait certains qui voulaient quelque chose de sérieux et de cadré, et d'autres au contraire qui trouvaient ça sympa de discuter de ça. Certains qui étaient passionnés, qui étaient contents que je prenne leur passion au sérieux. D'autres qui sans doute espéraient me draguer et coucher avec moi peut-être. Du coup, l'entretien, c'est une relation humaine où il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses que l'entretien lui-même qui se passent. Et entre autres, des dimensions érotiques, sexuelles, de séduction. Alors, ma démarche, je dirais pas que c'est une démarche complètement transparente, parce que j'ai aussi ma vie privée, à laquelle je tiens. Et je ne sais pas sacrifier mon corps à la recherche, ou sacrifier l'entièreté de mon existence à la recherche. Et donc, je maintiens quand même un espace de vie privée. Mais j'ai essayé, en tout cas, de plus possible, d'essayer d'être attentif à ce qui se passait en moi ou autour de moi pendant les entretiens, et aussi pendant que je visionnais ensuite les vidéos. Donc je reconstituais en fait les parcours de navigation pornographique des participants à l'enquête à partir des indices, des mots-clés, des noms d'acteurs, d'actrices, de studios, de sites web qu'ils m'avaient donnés. Et souvent, en fait, l'enquête, elle partait de choses où je sentais qu'il y avait quelque chose qui se jouait, soit parce que ça revenait beaucoup dans les entretiens, mais aussi parce que quand je revenais sur ma propre trajectoire de spectateur de pornographie, je me disais, effectivement, il y a quelque chose qui se joue. Donc j'ai essayé d'être, à la fois parfois de me décentrer, parce que des fois on me racontait des choses qui m'étaient tout à fait étrangères, donc j'essayais de les comprendre, j'essayais de me dire, on peut être excité par ça, d'accord, et donc...
Voire choquante, vous parlez d'un entretien, moi, avec quelqu'un qui a tout d'un coup, une sorte de logorée très anti-féministe qui vous met vraiment mal à l'aise, quoi.
Oui, alors ça c'est un des entretiens qui paradoxalement était un des plus intéressants à réaliser. Donc c'est un entretien avec Louis, qui est un homme qui a une trentaine d'années, donc qui est un peu plus âgé que moi à l'époque, et qui d'un côté m'a fait entièrement confiance, c'est-à-dire m'a vraiment raconté par le menu ses fantasmes et sa vision du monde, mais qui m'a plutôt écrasé pendant l'entretien, qui s'est assez peu intéressé à moi, qui m'a plutôt considéré comme un homme hétéro, qui expliquait un peu le monde, les choses. Ça a été un entretien très intéressant à analyser, je trouve, parce que c'est un homme qui est assez viriliste et assez masculiniste, mais on sent, mais on voit aussi toutes les contradictions internes à sa posture, qui laisse assez ouverte et assez béante parce qu'il n'était pas dans la retenue face à moi. Donc ça a été intéressant à analyser. Par contre, ça a été un peu fastidieux, effectivement, à conduire parce que c'est quelqu'un qui n'était pas dans l'échange, dans la réciprocité. Donc, après, il y a eu plein d'entretiens, en fait, assez différents les uns des autres. Il y a toujours eu la complicité masculine, mais avec des déclinaisons très différentes selon les...
Ouais. Une des choses quand même qui ressort, parce que donc pas de jugement moral, mais en même temps vous dites souvent ils profitent de faire l'objet de stéréotypes, ces consommateurs de porno, pour en fait éviter pour beaucoup d'entre eux en fait tout questionnement un peu critique justement sur leurs propres fantasmes, sur les contenus de ce qu'ils regardent. Et alors un truc qui revient assez souvent, et là ça nous donne l'entrée aussi vers les mécanismes de domination qui jouent, c'est que ils considèrent que leur pratique, en fait, ça pose pas de problème. Ceux qui regardent, ça pose pas de problème pour eux, même si ça peut être des contenus un peu choquants ou il y a la question de la violence qui se pose. Mais c'est toujours pour les autres que ça pose problème. Ils disent à chaque fois ça dans les mains, dans les yeux de plus jeunes, de jeunes de quartier et tout. Là, c'est là que c'est dangereux, quoi. Et donc ça, vous montrez bien ce décalage.
Alors effectivement, ça c'est un revirement en fait au cours de l'enquête parce que au début, du coup, quand je suis arrivé sur des forums de passionnés, je trouvais vraiment intéressant qu'il y ait des hommes qui se rassemblent pour parler de leurs fantasmes, parce que je trouvais que c'était assez différent de ce que me racontaient, par exemple, les hommes hétéros mariés, auxquels j'ai eu beaucoup de mal à avoir accès, d'ailleurs, parce que les hommes hétéros en couple, cohabitants en tout cas, ne voulaient pas me parler. Voilà. Et en fait, quand on en parlait, c'était très cloisonné, ils en parlaient très peu. Et je trouvais ça intéressant qu'il y ait des espaces pour parler de fantasmes, de masturbation, et aussi pour mettre à distance critique les stéréotypes de l'accro au porno, par exemple, qui est la manière dont on a représenté à la télévision pendant toutes les années 2000 les publics de la pornographie, sachant que les femmes sont invisibilisées et les hommes, du coup, sont pathologisés. Donc je trouvais ça intéressant, ce rapport critique aux stéréotypes. Puis finalement, au fil de l'enquête, ça m'a un peu fatigué, on va dire, parce que je voyais que... Je me rendais compte, comme vous le dites, que finalement, la critique du stéréotype, comme quoi, forcément, les consommateurs de porno seraient violents, seraient des violeurs. Du coup, la mise à distance du stéréotype, qui d'un premier côté me paraissait juste, parce que je pense pas que les consommateurs de porno soient davantage des violeurs que la moyenne des hommes, mais par contre, les violences sexuelles et la domination masculine, il y a un problème du coup systémique. Et le fait que des hommes, en l'occurrence hétéros sur ces forums, parce que ça rassemble des hommes hétéros, aient des fantasmes de domination masculine très souvent et de soumission et de disponibilité féminine, et qu'ils considèrent que la question de la domination, de la violence, c'est juste des stéréotypes négatifs à mettre à distance, et du coup ils n'ont pas de réflexivité sur leur propre pratique, sur leur propre rapport à la domination. Ça, au fur et à mesure, ça a commencé à me titiller un peu, et du coup j'ai un peu fait un revirement en fait critique, et je l'ai plutôt décrit finalement comme une forme de refus en fait de la réflexivité et de refus en fait du dialogue avec les critiques féministes de la domination masculine en général.
Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure là, sur ce truc là de alors ça parce que ça dans les yeux des jeunes ça va pas. Vous dites souvent que ce qui revient souvent, c'est les jeunes de banlieue. Donc, en fait, vous expliquez qu'il y a des mécanismes de, au fond, racistes, et de classe, qui se jouent dans ces considérations-là.
Oui, ce qui m'a marqué pendant les entretiens, c'est que souvent, il y avait une coupure en deux. Il y avait la personne qui me racontait ses fantasmes par le menu, Et puis ensuite, il y avait... donc, il y a plutôt le consommateur de porno. Puis ensuite, il y avait le citoyen qui... parce qu'à la fin, on avait des discussions du coup plus politiques sur la question du coup de la régulation des contenus, des débats autour de la violence, de la domination. Et dans ces débats plus politiques, en fait, ils parlaient plus du tout d'eux-mêmes, mais effectivement, ils invoquaient la figure des jeunes, qui souvent, implicitement ou explicitement, est la figure des jeunes de banlieue. Donc effectivement une figure marquée, souvent sous-entendue, un jeune homme de classe populaire, arabe ou noir, qui aurait une plus forte propension à la violence parce qu'il serait moins éduqué ou qu'il aurait une culture d'origine qui l'encouragerait à la violence, enfin tout ce type d'associations d'idées idéologiques racistes et classistes qui circule beaucoup dans l'espace médiatique, et du coup, que ces hommes se réapproprient. Et effectivement, la manière dont ça leur sert un peu à se dépêtrer et à mettre à distance le problème de la domination et de dire, voilà, la domination, c'est eux. Et moi, du coup, j'ai rien à déclarer parce que tout va bien. Et quelque chose qu'on me disait beaucoup, c'est, je sais faire la part des choses entre les fantasmes et la réalité. Et dans cette formule, je sais faire la part des choses entre les fantasmes et la réalité. C'est une formule un peu d'éducation aux médias ou d'éducation à la sexualité qu'on entend beaucoup. Et la manière dont elle marche pas quand ces hommes se la réapproprient, c'est que ils l'utilisent pour ne pas du tout réfléchir à leurs fantasmes. Et là où ils font pas forcément la part des choses entre les fantasmes et la réalité, c'est qu'en fait, aussi bien dans leur réalité de tous les jours que dans leurs fantasmes, il y a des postures de virilité, de domination masculine, il y a des stéréotypes de genre qui sont en jeu, et auxquels ils ne, alors selon comment on le voit, auxquels ils n'arrivent pas ou ils ne veulent pas, souvent c'est un mélange des deux, réfléchir.
Ouais, d'ailleurs, dans la conclusion, vous dites bien, il n'y a pas que les jeunes à éduquer. En fait, on a tous à être éduqués parce qu'on on est tous vulnérables quelque part à des sortes de clichés, de stéréotypes qui sont véhiculés évidemment par la plupart des productions porno. Mais on va y revenir. Je reviens sur un autre de vos résultats à propos de la thèse de la banalisation du porno. Vous dites c'est une thèse assez courante. On dit maintenant le porno est partout. C'est devenu quelque chose de banal. Et vous soulignez quand même que vos entretiens montrent que non, ça reste quand même. Peut-être qu'on en parle plus facilement au sens où on fait cet entretien par exemple sans aucun problème. Mais vous dites bien non, dans la vie quotidienne quand même les gens restent très très discrets, très très cloisonnés, en particulier dans les couples où c'est très rare que ce soit un sujet ouvertement abordé, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est assez massif, j'ai l'impression, dans votre enquête.
Oui, c'est-à-dire que si vous poseriez comme ça la question aux participants à l'enquête, est-ce que, enfin, je pense qu'ils auraient envie, et comme beaucoup de monde, comme beaucoup d'hommes, de dire, oui, moi, je suis ouvert, j'en parle sans problème. Parce que c'est très valorisant de dire, moi, je suis ouvert, j'en parle sans problème, j'ai aucun problème avec ça. Et souvent, pour les hommes en couple cohabitant hétérosexuel, il y avait du coup la position de dire « Ah, mais ça pose aucun problème, on en discute ». Et puis quand on parle concrètement des routines domestiques et des routines de la vie quotidienne, en fait, le plus souvent, on s'en rend compte que c'était jamais verbalisé, explicité, mais que souvent, en fait, la compagne le savait par l'historique Internet, par des sous-entendus, par les hommes me disaient « Je sais qu'elle le sait », mais finalement, ça n'a jamais été formulé explicitement. Et alors, parfois, comment je relançais, pourquoi vous en parlez pas? Quelque chose qui revenait souvent, c'était, ah oui, mais c'est pas trop son truc, parce que c'est vrai que le porno, c'est plutôt un truc masculin, donc c'est pas trop son truc. Et finalement, c'était plutôt renvoyé à une question de sensibilité féminine qui serait pas compatible avec ce sujet de conversation, qui serait heurté, du coup, par ce sujet de conversation. Mais il y avait, là encore une fois, peu d'interrogations sur chez eux-mêmes, qu'est-ce que ça déplacerait d'en parler, le fait de décloisonner. Alors, je dis pas forcément qu'il faut tout décloisonner, parce que je pense pas nécessairement que ce soit un but en soi, mais du coup, en fait, d'expliciter son rapport fantasmé à la domination masculine, avec sincérité et sans le prôner, sans le défendre, mais juste comme un état de fait à questionner, à interroger, c'est quelque chose, je pense, qui est assez déstabilisant pour ces hommes, pour les hommes en général peut-être. Le fait que c'est un peu un secret de polichinelle, le fait qu'on a ces fantasmes-là et qu'on sait pas trop quelle place leur accorder ou qu'on veut pas trop, en tout cas, rendre des comptes aussi aux autres. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est pas très réfléchi et dont on préfère garder les choses pour soi.
Alors, il y a un contre-exemple, j'aimerais bien que vous m'en parliez, celui de Sylvie, parce que vous avez quand même parlé à quelques femmes en contrepoint de cette enquête. Et ça, c'est intéressant parce que, donc, vous dites, c'est une femme qui avait une éducation très, très corsetée, très conservatrice, qui débloque beaucoup de choses avec un de ses premiers partenaires, avec qui elle parle et visionne du porno. Et à partir de là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça lui ouvre d'autres horizons dans sa propre sexualité pour les années à venir.
Tout à fait. L'histoire du coup singulière de Sylvie, c'est vrai qu'elle renvoie à quelque chose qu'on observe dans l'enquête Contexte de la sexualité en France, qui est la grande enquête qui a lieu chaque décennie par questionnaire auprès de 12 000 ou de 20 000 personnes vivant en France. Et ce qu'on observe dans cette enquête, c'est que souvent les femmes découvrent la pornographie par un ou une partenaire sexuel.
Du coup, plus tardivement aussi.
Et plus tardivement, pas à l'adolescence, mais plutôt à la vingtaine. Et là, du coup, c'est le cas de Sylvie, qui, par contre, avec ce conjoint-là, rencontre des limites. C'est que le conjoint, il aime les choses plutôt hétéronormées, plutôt classiques. Et puis elle, en fait, elle se met à avoir une palette de goûts plus diversifiée, qu'elle peut pas partager avec ce conjoint. Et en fait, c'est au moment où elle va rompre avec ce conjoint que, du coup, elle va intégrer la pornographie et la consommation individuelle et masturbatoire dans sa vie quotidienne, et qu'elle va aussi commencer à se définir comme bisexuelle, et que ça va lui élargir les horizons. Donc, pour le coup, les trajectoires de consommatrice et les trajectoires de consommateur n'ont pas forcément, ou voire n'ont pas du tout les mêmes implications en termes de genre et de sexualité.
Alors là, on parle des constats qu'on vient d'avoir concernent beaucoup les hétéros. Oui. Et il y a des passages très intéressants dans le livre où alors vous parlez de contexte multipartenaire gay, où là, vous dites, là, c'est, les choses sont différentes. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de la façon dont les contenus porno, au contraire, suscitent, accompagnent la rencontre réelle entre partenaires gays?
Alors effectivement, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu comparer la sexualité gay et la sexualité hétéro, c'est que dans le contexte de la sociabilité gay urbaine moderne, les images, dès l'époque dès les débuts de la photo, la circulation d'images et la rencontre de partenaires et l'entretien de sociabilité homosexuelle sont allés ensemble. Aussi, le porno joue un rôle important dans les sex clubs, avant dans les cinémas X, dans les sex shops. Donc il y a toute une sociabilité autour des images explicites homoérotiques entre hommes. Et avec les smartphones, avec les applications de rencontre, ça renouvelle ça. Alors, avec une limite, c'est qu'il y a aussi une censure grandissante de la sexualité explicite sur le web qui touche aussi les applications de rencontres. Mais du coup, il y a toute une circulation d'images, et ce qui fait qu'il y a beaucoup moins une rupture, on va dire, entre la sexualité à deux et la sexualité pour soi-même avec les images. Il y a beaucoup plus de continuité entre les deux, aussi parce que le porno gay, pour beaucoup d'hommes gays et bisexuels, fait partie de la culture gay, donc c'est quelque chose dont on peut parler au même titre que d'autres références de la pop culture. C'est quelque chose qui peut être intégré à une certaine culture gay en lien avec des références plus légitimes. Et du coup, un exemple, c'est par exemple le site Xtube, donc l'équivalent porno de YouTube, qui a aussi ouvert un an après YouTube dans la deuxième moitié des années 2000. Et pour les hommes hétéros, Xtube, pour les hommes hétéros, en tout cas plutôt monogames que j'ai rencontrés, Xtube, c'est avant tout un site pour visionner des vidéos. On y va du coup pour visionner des contenus gratuits, notamment amateurs, mais aussi professionnels. Et pour certains hommes gays que j'ai rencontrés, Xtube, c'est un site de rencontre, en fait. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut visionner des vidéos d'hommes qui sont situés en région parisienne et leur envoyer un message par message privé et les inviter pour un plan cul et éventuellement le filmer, éventuellement le mettre en ligne, éventuellement rencontrer d'autres partenaires. Donc ça s'inscrit dans une sociabilité.
Alors, et par rapport à ces enquêtés gays, vous dites que vous parlez d'une découverte. Alors, je ne sais pas à quel point c'était vraiment une découverte. En tout cas, vous vous attendez peut-être pas à cette ampleur-là. Vous parlez, on va décoder ça, d'homonormativité. Si j'ai bien suivi, c'est le fait que le rapport à la virilité, bon, il est évident chez les hétéros, il existe aussi chez les gays, mais d'une manière un peu différente, mais qui peut s'accompagner, et c'est ça la découverte, d'une hostilité au féminisme. Là, vous dites que vous découvrez ça chez pas mal d'enquêtés gays, et ça a l'air de vous heurter, en tout cas.
Oui, alors là, moi je raconte comment moi j'ai évolué au cours de cette enquête. Après, avec un peu de recul, c'est pas une surprise, en fait. Si on prend un peu de recul, ça avait été très documenté au moment des années 70, qui est le moment où il y a une sexualité gay commerciale qui s'institutionnalise avec les sex shops, avec le porno, et où déjà ça faisait l'objet de beaucoup de débats au sein, par exemple, du Front homosexuel d'Action révolutionnaire, au sein de Gaypied, qui est du coup le premier grand magazine gay des années 70. Ça faisait beaucoup de débats, du coup, à la fois le rapport au capitalisme et le rapport, du coup, à la virilité qui se déployait dans ces espaces-là. C'est pas quelque chose qui est nouveau, hein, aussi dans les mouvements féministes, dans les mouvements lesbiens. Il y a toute une critique qui existe depuis un certain temps d'un certain virilisme, d'un certain masculinisme gay. Donc c'est des choses qui sont pas nouvelles. Je dirais que là où ça se recompose, peut-être dans le contexte des années 2010, il faut dire qu'il y a le moment où j'ai mené l'enquête, c'est que ce qui m'a marqué, c'est la coexistence de, d'un mode de vie gay, urbain, d'une certaine fierté gay, voilà, avec l'érotisation de la figure de l'homme hétéro, qui revenait souvent. Souvent, un fantasme qui revenait souvent, c'est une virilité brute, pas de l'acteur porno bodybuildé, bien bronzé, huilé, glabre, épilé, autour d'une piscine à Miami dans les années 80. Voilà, c'est souvent ça un peu le contre-modèle, mais c'est plutôt l'idée d'un homme poilu, un peu quelconque, mais assez robuste, avec le crâne rasé, avec du poil, et souvent de l'imaginer comme hétéro, ça, voilà, ça rajoutait du piment.
D'accord.
Et dans ce fantasme de l'homme hétéro, il y avait souvent une manière de redéfinir l'homosexualité telle qu'elle est attirante et du coup valorisable, comme un truc de vrai mec. Mmh. Et c'est là où vient l'homonormativité, c'est le fait de redéfinir l'homosexualité par rapport à une norme masculine, l'idée que l'homosexualité c'est un truc de vrai mec, ça se passe entre hommes. Et du coup d'exclure en fait de ce jeu érotique toute une les hommes qui rempliraient pas du coup des standards de virilité suffisants pour rejoindre les jeux, mais qui aussi place des hommes qui auraient une virilité déviante, notamment parce que arabe ou noir est donc perçu comme ayant une virilité ou une masculinité pas très républicaine, pas très correcte, à surveiller, à placer sous surveillance, parce qu'il pourrait être un peu homophobe, un peu délinquant, un peu trop sexiste, un peu, donc il y a toute une série de normes, en fait, au niveau de la masculinité, qui se jouent un tout petit peu différemment chez les hommes gays, au sein des hommes blancs de classe moyenne supérieure, qui jouent un tout petit peu différemment chez les hommes gays et chez les hommes hétéros.
Mais sur la question de la virilité arabe, ça, c'est intéressant, parce que vous dites, autant chez les hétéros, le truc très classique, c'est les femmes disponibles, le corps disponible, etc., la soumission. Mais vous dites bien, chez les gays enquêtés, il y a ce fantasme-là de la virilité arabe aussi, donc qui met aussi en jeu, en branle, pas la question du genre, mais aussi la question de la race, qui est très fort. Donc il y a aussi de l'attirance et du fantasme aussi, aussi sur cette population-là, de jeunes hommes arabes ou noirs, quoi.
Voilà, et tout à fait. Il y a donc une articulation idéologique, on va dire, qui était souvent à l'œuvre dans les fantasmes tels qu'ils étaient racontés. C'était l'association entre arabe ou noir, hétéro, viril, et avec une ambivalence excitant, mais aussi dangereux.
D'accord. Voilà,
c'était souvent un peu les ingrédients qui étaient beaucoup en jeu. Et quand j'essayais d'introduire un peu une discussion critique là-dessus, de déconstruire un peu ce stéréotype, les hommes blancs que j'ai rencontrés avaient beaucoup de mal à, enfin, en tout cas, persister sur la ligne. Enfin, ils disaient, moi, je ne suis pas raciste. Et souvent, ils disaient, je ne suis pas raciste parce que je suis gay, souvent, parce que je suis ouvert, et la communauté gay est ouverte, donc je ne suis pas raciste, parce que je suis une minorité, donc je ne peux pas discriminer d'autres minorités, voilà. Et, mais en même temps, d'attribuer le stéréotype aux hommes arabes, de dire, mais en fait, ils sont comme ça. Enfin, c'est-à-dire que, in fine, oui, c'est un stéréotype, parce que, voilà, le mot du stéréotype revenait beaucoup. Je sais que c'est stéréotypé, mais en fait, ils sont stéréotypés. Donc, en fait, le discours sur le stéréotype, finalement, il venait finalement renforcer ou confirmer le racisme, parce qu'il n'y avait pas l'idée que le stéréotype était produit par le regard blanc, mais l'idée que le stéréotype, ce serait une propriété, en fait, naturelle des gens qu'on assigne à un stéréotype. Donc,
Votre livre démontre un autre cliché selon lequel les goûts qu'on a dans ce qu'on regarde en porno dirait quelque chose de notre identité sexuelle. Alors certains enquêtés sont là-dedans, c'est-à-dire qu'ils protestent par exemple de leur normalité. En gros, je suis hétéro parce que je regarde ça ou ça. Mais c'est marrant parce que vous notez que parfois ils sont déstabilisés, quoi. Voire ils évitent certains contenus parce qu'ils craignent d'être déstabilisé. Peut-être qu'on peut donner des exemples de ça.
Oui, tout à fait. Alors quelque chose qui m'a pas choqué pendant les entretiens, mais c'est au moment de le retranscrire, il y a une question que je posais, c'était quel est le porno que tu regardes jamais ? Et en fait, avec les hommes hétéros, ce qui m'a marqué, c'est que la retranscription, c'était au même moment que la manif pour tous. Les entretiens, c'était juste avant. Et ils me disaient, ah, moi, je regarde jamais de gays, de trans, de zoophiles, de noirs, de gros, enfin de grosses, de poilus. Et donc il y avait une association entre, enfin c'est au moment où on associait beaucoup par exemple homosexualité, pédophilie dans le discours public, on entendait toute une série de discours comme ça très très hétéronormatifs, et c'était des hommes voilà qui m'étaient très, enfin qui m'étaient pas spécialement antipathiques, enfin qui,
oui,
qui paraissaient pas être Manif pour
le
tous.
Cardinal Barbara
voilà,
à l'époque,
en tout cas je pense
du mariage pour tous,
qui serait choqué voilà si on les comparait à la Manif pour tous, ouais. Mais qui me disait ah non alors moi l'homosexualité, la pédophilie, tout ça je regarde pas, voilà, enfin la zoophilie, enfin ouais. Bon bref, mais tout ça étant mélangé dans un best, de toute manière les mots ont finalement un peu d'importance parce que c'est une sorte de bestiaire ou de voilà ou de rayon du fond du sex shop où ouais, on va pas mettre les pieds parce que c'est vraiment les trucs déviants, voilà. Et donc ça c'est quelque chose qui m'a, et où il y avait aussi les autres racialisés dedans, c'est-à-dire que les noirs ou les asiatiques pouvaient aussi être mis dans ce bestiaire. Donc et en fait je pense que ces hommes se rendaient pas compte de la violence en fait de cette classification ordinaire de voilà donc ça c'est vraiment une chose qui m'a qui m'a marqué. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est comme vous le dites, le fait de mobiliser ces fantasmes pour dire qui on est, pour dire ah, moi je suis tel type de personne, tel type d'homme parce que j'ai tel type de fantasme. Alors par exemple Louis, c'est un homme qui aime l'uro, mais qui dit, mais par contre, je suis pas déviant parce que j'aime l'uro quand c'est l'homme qui fait pipi sur la femme. Et par contre, les gens qui aiment le scato, là, eux, ils sont vraiment malades. Donc, alors que beaucoup de monde pourrait considérer l'uro, si on demande à beaucoup de personnes, comme ça, sur un micro-trottoir dans la rue, sûrement que les gens verraient les gens qui pratiquent l'uro comme des gens qui sont malades. Mais Louis, en tout cas, même s'il y avait des fantasmes qui pourraient être vus comme étant déviants, insistait vraiment sur la normalité et mobilisait la masculinité et le genre pour dire que c'était normal, ce qu'il faisait est normal. Une autre chose qui m'a interpellé, c'est dans la relation d'enquête avec les hommes hétéros, où souvent, à un moment donné, ils me demandaient « qu'est-ce que tu consommes ? Qu'est-ce que tu regardes ?» Et alors moi, j'essayais de ne pas faire de déclaration identitaire, de ne pas dire qui je suis, parce que en général, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas trop. Et du coup, j'essayais le plus possible d'être fidèle à ça dans les entretiens. Et il se trouve que j'aime bien le porno gay, parmi d'autres goûts. Donc je disais, je regarde du porno gay. Et ils se disaient, ah d'accord, mais t'es homo. Et du coup, ça changeait complètement la relation d'enquête.
Parce que vous regardez ça, ça voulait dire que...
Et donc aussi, ils me racontaient, ah oui, mais moi, parfois, je regarde du porno avec des femmes trans. Donc association d'idées très... Voilà. Ah bon, tu regardes du porno gay, donc tu es homo, donc je vais te parler de mes fantasmes... avec des femmes trans, donc voilà, donc ça crée des associations d'idées très fortes. Donc j'essaie un peu de jouer avec ce que ça impliquait. Et effectivement, de fait, consommer du porno gay quand on est un homme, c'est vu comme être homosexuel. Un des entretiens qui m'a fait bouger là-dessus, c'est des entretiens avec Giovanna et Tom, qui sont deux femmes lesbiennes qui regardent du porno gay. Et que ça a perturbé au début de regarder du porno gay, parce que le porno gay, c'est avant tout beaucoup de virilité, beaucoup de poils, beaucoup de muscles. Enfin, en tout cas, c'est clairement ce qu'elle cherchait dans le porno gay, c'était du porno viril. Et du coup, en tant que lesbienne, elle se posait la question, est-ce que... ça les a beaucoup questionnés sur est-ce qu'elles sont hétéros, est-ce qu'elles sont bi. Et en fait, c'est en parlant à d'autres lesbiennes qui, elles aussi, regardaient du porno gay, que finalement, en fait, elles ont arrivé à en faire sens. Et en fait, on peut être lesbienne et regarder du porno gay. Et en fait, c'est en discutant avec certains spectatrices et certains spectateurs qui ont participé à mon enquête et qui sont pas dans la norme hétéro et qui ont pas non plus des fantasmes qui correspondraient à une certaine norme homo non plus, que moi-même, ça m'a aussi amené à revenir sur ma propre trajectoire et voir avec quelle sorte de stéréotype je me débatouillais. Et finalement, ça m'a amené à donner de l'importance à cette idée reçue que montre-moi qui tu es, enfin surtout pour les hommes en tout cas, montre-moi qui tu es, je te dirai qui tu bandes, parce qu'il y a cette idée très forte que la sexualité des hommes, elle serait comme ça brute de décoffrage et que ça mentirait pas. Et que si on vous expose à un porno et que met un ruban autour de votre pénis et qu'on mesure l'afflux sanguin, ce qui est effectivement malheureusement quelque chose qui a beaucoup été pratiqué dans la médecine, le fait de tester l'identité sexuelle des hommes par des techniques d'exposition aux images et de tests d'afflux sanguin, voilà, de mesurer la vérité. Donc même si c'est quelque chose qui se pratique encore dans certains marges de la médecine, mais qui est plus aussi courant qu'avant. En tout cas, c'est une idée reçue qui est très forte. L'idée que nos goûts diraient la vérité sur nous. Et souvent, du coup, pour les hommes gays que j'ai rencontrés, ils ont été parfois contraints à faire leur coming out face à leurs amis ou face à leur famille parce qu'on a découvert du porno gay dans leur chambre ou parce qu'ils ont dit du porno gay qu'on a dit « Ah, mais donc, on a la preuve, on sait qui tu es ». Et ce à quoi j'aimerais contribuer, en tout cas, avec ce livre et avec beaucoup d'autres discussions publiques que sur le porno, c'est plutôt à dédramatiser les attirances pornographiques, à la fois avoir une sorte d'honnêteté et de sincérité, c'est-à-dire à pas mettre la poussière sous le tapis, mais en même temps de pas se sentir défini une fois pour toutes par des fantasmes qui diraient la vérité sur nous. Je pense que s'il y a des fantasmes qui persistent comme des idées fixes en nous, je pense que c'est pas pour rien et qu'il faut y prêter attention. Il faut prendre soin des effets que ça peut avoir voilà, sur soi, sur la construction de l'identité et sur le rapport aux autres. Mais en tout cas, les fantasmes ne disent pas une vérité absolue sur nous. En tout cas, je pense qu'on peut contrer cette idée reçue.
Mmh. Alors, on va prolonger cette réflexion en allant sur la partie conclusive de votre livre. Un mot sur une des choses que vous dites dans cette conclusion, sur ceux qui aimeraient une approche plus répressive du porno. Ça passe souvent dans ce qui est débattu, hein, sur le contrôle parental, notamment. Bon, on connaît les reproches qui sont faits au porno. Il y a toute une partie de reproches qui débordent du cadre de votre livre, qui a trait aux conditions souvent lamentables, hein, de production de certains pornos. Il y a les reproches de vision sexiste, dégradante de la femme. Mais donc vous affirmez que ça aurait des effets pervers, en fait, d'aller sur une approche qui serait uniquement de répression, de censure, plus ou moins partielle. Quels effets pervers? Ça veut dire quoi, des effets pervers? Qu'est-ce que ça peut créer, la répression de négatif?
Alors, c'est quelque chose, hein, qui n'est pas hypothétique, mais c'est quelque chose qui se passe vraiment. Parce qu'en fait, la répression sexuelle sur Internet, elle est assez forte en ce moment.
Oui, vous l'évoquiez tout à l'heure sur les applications.
Voilà, parce qu'en fait, il y a une série de lois. Donc, c'est les lois FOSTA, CESTA aux États-Unis, qui sont des lois qui sont a priori contre le proxénétisme, mais qui en fait, contre le proxénétisme en ligne, mais qui en fait sont des lois contre finalement toute forme de sexualité explicite ou toute forme de marketing du travail du sexe en ligne, et dont un équivalent a été voté en France avec la loi violence conjugale, qui demande à tout site pornographique d'interdire effectivement l'accès aux mineurs, et donc pas seulement une simple, pas sur du déclaratif, mais enfin par carte bleue ou par recueil de pièces d'identité, de mesurer ça. Et bon, bah aujourd'hui, beaucoup de notre vie passe par Facebook, Instagram, qui depuis le début ont des critères très puritains et très sexistes. Hein, ça a notamment été publicisé par les mobilisations, par exemple par les femmes qui publiaient des photos d'allaitement et qui se faisaient censurer leurs photos d'allaitement. Après, enfin aujourd'hui, c'est le mouvement Free the Nipple. Donc tous ces mouvements, voilà, de femmes qui revendiquent le droit de pouvoir publier des photos d'elles-mêmes en ligne sans être traitées d'obscènes et de pornographiques. Donc il y a toute une association entre nudité, sexualité, danger, et l'idée que tout ça doit être réprimé pour protéger les enfants ou pour protéger les femmes.
Oui, donc il peut y avoir un glissement liberticide donc, de cette nature.
Voilà, donc il y a un glissement liberticide, et qui en fait, les premières personnes à en pâtir, en fait, c'est les femmes et les hommes qui produisent du porno indépendant. C'est les personnes qui font de l'éducation à la sexualité en ligne, et notamment de l'éducation féministe à la sexualité en ligne. Et en fait, la séparation entre un espace public complètement aseptisé et des espaces ségrégés qui seraient des espaces sexuellement explicites, ça conduit à appauvrir considérablement en fait les imaginaires sexuels.
Ouais, et donc ça viserait ces gens-là en particulier. Et beaucoup moins, évidemment, les gros studios, les grosses machines qui produisent donc des contenus porno beaucoup plus stéréotypés, en fait, c'est ça que vous dites.
Ah oui, tout à fait. Hein,
type Dorcel et compagnie.
Fin... Voilà, si vous voulez, Dorcel a été favorable à la loi violence conjugale parce que ça amène ses concurrents à s'aligner sur son modèle économique qui est le paiement par carte bleue. Jackie et Michel a aussi participé aux auditions sur cette loi, ont été considérés comme des interlocuteurs légitimes. Donc là, clairement, les régulations aujourd'hui sur le porno sont pas du tout portées par des intentions ou des idéaux féministes sincères.
Et là, il y a beaucoup plus à faire. Je poursuis quand même parce que vous faites un constat assez fort, hein, en conclusion, qu'on pourrait juger... soit lucide ou désenchanté, selon lequel, en fait, on ne peut pas échapper aux fantasmes de domination tels qu'on les a un peu évoqués dans l'entretien. Vous dites, au fond, c'est ces fantasmes-là que notre consommation de porno traduit et assouvit en même temps. Finalement, vous dites, c'est inévitable parce qu'on vit dans une société donnée. Donc, il n'y a pas... En fait, vous dites, il n'y a pas à vouloir à souhaiter les éliminer. En fait, c'est perdu d'avance, quelque part. Mm. En revanche, vous avez une autre proposition qui est plus modeste. Mm. Je le comprends un peu comme une stratégie de damage control, quoi. C'est, en gros, on peut assumer ces fantasmes-là, mais essayer de les tordre, comme vous dites, par ce que vous appelez des expérimentations. Alors, qu'est-ce que ça veut vraiment dire si on explicite ça? Comment est-ce qu'on peut les déstabiliser un peu et réfléchir, prendre de la distance là-dessus? Concrètement, comment est-ce qu'on fait?
Je pense que déjà, le reconnaître et en parler dans les contextes appropriés, je dis pas qu'il faut... c'est pas du tout une invitation aux hommes ou aux hommes blancs à parler de leurs fantasmes sexistes et racistes à leurs collègues de travail, à la machine à café.
C'est pas du tout ça. Ça peut s'appeler du harcèlement, attention.
Parce que du coup, là ça devient du harcèlement. Et voilà. Et du coup, dans les contextes appropriés, d'y réfléchir et d'en tirer les conséquences éthiquement, c'est d'avoir déjà une réflexion éthique là-dessus, plutôt que de mettre la poussière sous le tapis, mais c'est d'avoir une réflexion éthique là-dessus, à titre individuel et à titre collectif. Je pense que c'est aussi important de soutenir toutes les personnes qui font à la fois de l'éducation à la sexualité, et donc aussi au fantasme, et aussi de soutenir les personnes qui, et notamment les femmes, et notamment les féministes, qui produisent des fantasmes avec des bonnes conditions de travail, et et aussi, pourquoi pas, à les inviter à parler de leur travail, à parler des conditions de production, à échanger avec elles sur c'est quoi tout le travail qu'il y a derrière, parce qu'en fait, ça demande énormément de travail de produire ces vidéos-là, y compris en travail de présentation de soi, en travail de maîtrise de techniques sexuelles, mais du coup, que les personnes qui produisent ces fantasmes-là aient droit de citer soient considérées comme des interlocutrices et des interlocuteurs et des personnes avec qui on va en débattre, on va en discuter de ces fantasmes. Effectivement, on en est là, c'est ça les fantasmes à travers lesquels on fait société. Et du coup, on va discuter avec des professionnels de l'éducation à la sexualité, on va discuter avec des professionnels, avec des travailleuses et travailleurs du sexe, et on va mettre ça sur la table et on va en discuter ensemble. Je pense que l'important, c'est pas tant de se concentrer sur le contenu des fantasmes, c'est plutôt de se concentrer sur les rapports de pouvoir, aussi bien au niveau de la production que de la réception, dans lesquels ils s'inscrivent. C'est-à-dire que ça change tout si c'est des femmes qui produisent les contenus et qui offrent des bonnes conditions de travail aux travailleuses. Ça change tout aussi si les fantasmes sont discutés, sont détricotés, sont discutés du coup en réception. Ce que je ferais primer, en tout cas, c'est le type de relation sociale qu'on construit à travers les fantasmes, que ce soit au niveau plutôt des industries culturelles, de la production des films, ou au niveau quotidien de nous tous et toutes en tant que spectateurs et spectatrices potentiels. Et voilà, moi, la question qui m'intéresse, c'est les relations sociales et les rapports sociaux qu'on construit par les fantasmes. Évidemment que les fantasmes, c'est pas des médiateurs neutres dans ces rapports sociaux, mais je pense pas que changer les fantasmes, ce soit un objectif politique en soi. Je pense qu'il faut changer les rapports sociaux et que là-dedans, les fantasmes... Mais aussi, je pense qu'il faut pas prendre les fantasmes littéralement. C'est-à-dire que le fantasme, c'est un jeu et que du coup...
Vous dites, le fantasme est un jeu dont l'issue n'est jamais entièrement connue à l'avance.
Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que je pense pas qu'il y ait des fantasmes qui soient intrinsèquement bons ou mauvais, en fait. Et je pense pas que ce soit intéressant de faire une police du fantasme ou de dire, en fait, on va faire une ligne politique et on va dire le bon fantasme, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a déjà été constaté à l'échelle du porno féministe. Au début du porno féministe, il y a eu l'idée de faire une charte sur le type d'image qu'on allait enlever. Par exemple, l'éjaculation masculine, faciale sur un visage féminin. On s'est dit, ça, c'est une convention du porno hétéro classique, ça nous fatigue, on va l'enlever. Mais après, pour le coup, il y a eu des réalisatrices féministes qui ont eu envie de le réintégrer différemment. Donc, je pense pas que un élément de fantasme en tant que tel ait une signification figée une fois pour toutes. Je pense que ça peut être intéressant de l'enlever à un moment donné pour évidemment le remettre à un autre moment. Mais ce qui compte, je pense, c'est moi, j'envisagerais plutôt le fantasme comme des médiateurs qui ont une signification qui peut être flottante, qui peut être négociée, qui peut être transformée. Et je prêterai attention surtout aux rapports de domination qui passent par les fantasmes mais pas nécessaire. Mais le contenu du fantasme, je pense qu'il faut une certaine liberté et une certaine expérimentation, une certaine ouverture, voilà, vis-à-vis de ça, parce que je pense que c'est aussi un jeu, le fantasme sexuel, qui a un intérêt en soi, auquel c'est intéressant, c'est divertissant, ça apporte de l'énergie, de jouer. Et je pense que c'est important de pas aseptiser les fantasmes, voilà.
Dernière question, vous parliez des espaces appropriés pour discuter de tout ça. Est-ce que l'éducation sexuelle publique, dans les collèges, dans les lycées, est-ce que, à votre avis, elle peut s'emparer de ces sujets-là? Parce qu'évidemment, que les collégiens, les lycéens, en une proportion significative d'entre eux, en tout cas, consomment des contenus porno. Est-ce que l'éducation publique peut jouer un rôle un peu avancé en cette matière?
La seule chose que je peux dire, c'est que je pense qu'il faut vraiment financer l'éducation féministe à la sexualité et la défendre idéologiquement. Je ne sais pas si l'école, dans son état actuel, est un espace où on peut arriver à discuter de sexualité dans leur diversité et dans une démarche féministe assumée. Je ne sais pas à quel point c'est possible. Mais en tout cas, voilà, moi, je serai attentif aussi aux normes que produisent les dispositifs d'éducation à la sexualité. C'est ce que montrent les recherches. Voilà, je pense par exemple aux recherches d'Aurore Lemat, qui a mené des recherches sur les dispositifs d'éducation à la sexualité, et qui montrent que, en fait, c'est des dispositifs qui produisent beaucoup de normes. Et notamment autour de la critique de la pornographie, je pense qu'il y a tout autant de normes qui passent par les discours anti-pornographie que par la pornographie elle-même. Donc j'inviterais à pas seulement s'inquiéter des normes que produit la pornographie, mais aussi des normes que produisent le discours anti-pornographie.
Bon, on s'arrêtera sur cette alerte. En tout cas, merci beaucoup, Florian Voros. Et donc, je rappelle votre livre aux éditions La Découverte, Désiré comme un homme. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Et je vous donne rendez-vous sur le site de Mediapart, dans le studio, pour retrouver tous nos grands entretiens. Au revoir.